Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format flash consacré cette fois-ci à la décision de censure de la loi ou de la partie de la loi de simplification économique qui concernait la suppression des fameuses ZFE, les zones à faible émission, qui constituent en fait une interdiction de circulation à toute une partie de la population française en direction des villes qui sont touchées par cette législation, qui a été vue et décrite comme très punitive donc de la France périphérique, la France des Gilets jaunes, la France qui est impactée par les prix de l'essence, etc. Et donc cette décision du Conseil constitutionnel qui vient rétablir en fait les ZFE, et dont tout un tas de gens, des écologistes, mais aussi le gouvernement, se sont réjouis en expliquant que ça allait permettre de maintenir la lutte contre le changement climatique, etc. Naturellement, ce n'est pas l'argumentation qui a été donnée par le Conseil constitutionnel, qui lui se prévaut d'une argumentation technique, mais ce que je veux expliquer ici, c'est que cette argumentation technique est en réalité ignominieuse et que ça souligne un très gros problème que j'ai déjà évoqué, mais ça fera une vidéo dédiée, sur le Conseil constitutionnel en France, qui est véritablement une catastrophe. Qui est une cour qui a plus de pouvoir que n'importe quelle cour de contrôle constitutionnel en Europe, en fait, hein, qui s'arroge un pouvoir équivalent à celui de la Cour suprême américaine, le problème étant que la Cour suprême américaine n'est pas un organe de démocratie parlementaire. On le sait, mais je renvoie à la conférence que j'ai faite à l'Institut catholique de Vendée, qui est sur la chaîne, pour l'explication là-dessus. Donc je voudrais me concentrer aujourd'hui sur cette question du Conseil constitutionnel, qui fait partie de ces éléments de la Constitution française qui la rendent autoritaire et qui la rendent en fait antiparlementaire, et qui est plus proche de ce qu'est le régime d'Iran, justement, hein, où ils ont un équivalent, le Conseil des gardiens de la Constitution, mais c'est un petit peu pareil, hein, c'est là aussi, ce sont nos mollahs à nous, hein, de la même manière qu'on a le clergé médiatique, eh bien, on a le Conseil donc constitutionnel qui poursuit son coup d'État. Parce que vous savez, souvent les gens parle du coup d'État qu'a été la création du bloc de constitutionnalité dans les années 70, par lesquels le Conseil constitutionnel s'est arrogé un pouvoir de contrôle absolument au-delà de ce qui était prévu à la base, ce qui est vrai. Mais il faut bien se rendre compte que le coup d'État continue, en fait. C'est le coup d'État permanent, pour le coup, pour reprendre la formule de Mitterrand. Et en particulier ces dernières années, parce que il s'est passé quelque chose d'extrêmement important. En 2008, c'est la bonne chose, la bonne réforme qu'avait fait Nicolas Sarkozy, pour le coup, c'est une des premières réformes qu'il avait faites, c'est une réforme constitutionnelle, qui visait à améliorer la démocratie en France, notamment la démocratie parlementaire, en donnant plus de pouvoir au Parlement. Et cette réforme constitutionnelle de 2008, notamment, visait de réduire explicitement, en modifiant la Constitution, parce que vous savez, aujourd'hui, on dit souvent, le Conseil constitutionnel est un trop gros problème, on ne peut plus rien faire dans ce pays à cause du Conseil constitutionnel, donc il faudra faire des réformes constitutionnelles pour que le Conseil constitutionnel n'ait plus tel et tel pouvoir. Eh bien, la réforme de 2008 vous prouve, en fait, que même ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel, de toute façon, vu sa position, peut décider de prendre le pouvoir sur un certain nombre de sujets. Et comme il n'y a aucun recours, franchement, le Conseil constitutionnel, c'est l'instance qui est la plus irresponsable de toute la Ve République française. Le président, il peut être soumis à la haute cour ou à une destitution. Le Parlement, il est soumis à la censure du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est lui très très tranquille dans ce qu'il fait. Hein. Qu'est-ce que ça a fait la réforme de 2008? En fait, il y a un vieux problème de toute façon dans tous les régimes parlementaires, qui est la possibilité de cavalier législatif. Un cavalier législatif, c'est quand vous allez mettre dans une loi qui n'a absolument rien à voir des dispositions. Par exemple, je ne sais rien, si vous vouliez, par exemple, rétablir la peine de mort à l'occasion d'un débat sur l'aide à l'enfance. Oui, voilà, une loi là-dessus. Donc, véritablement, le truc qui n'a absolument aucun rapport, juste pour arriver à faire passer des choses. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut limiter ça. Et ça a toujours été, effectivement, une idée, un principe de bonne gouvernance parlementaire, c'est qu'on ne fait pas des cavaliers législatifs, déjà parce que ça pourrit, si vous voulez, la cohérence des textes législatifs en allant mettre les dispositions auxquelles vous vous renverrez dans des lois qui n'ont absolument rien à voir, et ensuite parce que ça permet de faire glisser des choses à des endroits et de faire passer des lois en ne jouant pas les règles du jeu parlementaire, qui sont on se traite sur un sujet et on l'exerce. Bon. Maintenant, le problème, c'est que ça donne une arme terrible à celui qui est capable de censurer, parce que il peut empêcher de censurer à peu près n'importe quoi en suffisant d'expliquer que ah oui, mais c'est pas cohérent avec la loi. Il suffit que ça s'écarte un tout petit peu et il pouvait censurer. Donc la loi de la modification constitutionnelle de 2008 a été faite pour écarter ce problème-là et pour empêcher le Conseil constitutionnel de faire une censure dans ce cas-là, en obligeant le Conseil constitutionnel à ne faire de censure que sur des cas qui en fait seraient manifestes pour tout le monde. Du type de l'exemple caricatural que je vous ai donné avant. Et donc, cette réforme constitutionnelle a établi qu'un lien, même indirect, suffisait à écarter le cavalier législatif. Et donc, en fait, interdisait au Conseil constitutionnel, dès lors qu'il y a un lien, même indirect, ce qui signifie qu'il peut être assez ténu, avec le sujet de la loi, en fait. Alors naturellement, le problème, c'est que ça reste, il y a une part de subjectivité là-dedans, et que celui qui juge de cette subjectivité, ben, ça reste le Conseil constitutionnel qui décide ce qui est un lien direct ou un lien indirect. Et donc, en fait, c'est totalement en fonction de ce qu'il considère comme une opportunité politique. Hein, parce que vous le voyez, le Conseil constitutionnel donne un argument technique, mais finalement, il va dans le sens du gouvernement qui, lui, donne des arguments politiques. Et... C'est une habitude qui est prise par le Conseil constitutionnel comme ça. Et donc vous avez, là où c'est véritablement ignominieux, c'est pour ça que je le dis, c'est que c'est un détournement des institutions, c'est un abus de confiance de la Constitution, c'est que vous avez un Conseil constitutionnel qui va, en dépit de la modification constitutionnelle qu'a fait le Parlement pour retrouver ses pouvoirs à partir de 2008, le Conseil constitutionnel s'est assis sur cette réforme constitutionnelle est fait comme si elle n'existait pas. Au contraire, elle a détourné, elle a terrassé de sa propre autorité du Conseil constitutionnel, qui ne devrait pas avoir. Et donc, on a eu deux exemples ces deux dernières années. Le premier exemple, c'est le Conseil constitutionnel qui a, à propos de la loi de 2024, vous vous souvenez, c'est la loi immigration, dedans, le Parlement, parce que c'était une loi qu'avait fait le Parlement avait rejeté la loi qui avait été faite par le gouvernement, il en avait fait une autre lui-même, qu'il avait négociée de manière interne, et qu'il avait introduite. Et dans cette loi, qui s'intitulait « Loi 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration », effectivement, elle avait un titre, un objet assez net, elle avait, le Parlement avait inséré des dispositions qui limitaient, sous certaines conditions, les droits sociaux des immigrés, par exemple en augmentant la durée de résidence, etc. Des choses qui concernent les immigrés et qui concernent ce qui peut servir d'incitation à l'immigration, qui entre dans le calcul des immigrés qui veulent venir en France. Donc, pour une loi qui est faite pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, vous pouviez dire qu'il n'y avait pas de lien direct, éventuellement, mais c'est difficile de dire qu'il n'y a pas de lien indirect, parce que ça reste une question d'immigration et de contrôle de l'immigration et de motivation et de gestion de l'immigration. Eh bien, le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions en disant que c'était un cavalier législatif. Et là, nous avons un deuxième exemple avec la ZFE, qui est une loi, donc l'abrogation de la ZFE, c'est une abrogation d'une restriction à la circulation des personnes, donc quelque chose qui concerne la vie économique, parce que le fait que les gens puissent se déplacer sur le territoire, accéder depuis les campagnes aux villes, ben, c'est la vie économique, l'économique c'est très large. Et donc nous avons une loi de simplification de la vie économique, dedans il y a l'abrogation des ZFE, eh bien le Conseil constitutionnel considère, là encore une fois, qu'il n'y a même pas de lien indirect. Et il n'a même pas, en fait, à l'argumenter, puisque de toute façon, sa motivation au Conseil constitutionnel ne sera jugée par personne, puisqu'il n'y a pas de recours. Hein? Même si le Parlement n'est pas content, il n'y peut rien. C'est comme ça, le Conseil constitutionnel a décidé. Il n'y a pas de recours. Et donc, vous voyez sur ces deux exemples que, en fait, ce que fait le Conseil constitutionnel, c'est qu'il fait exprès d'interpréter la Constitution et des articles de la Constitution qui visaient à limiter son pouvoir, il les interprète en fait en sens contraire de ce qu'ils disent pour justifier sa censure. C'est un détournement de texte, c'est extrêmement grave. C'est le Conseil constitutionnel qui détourne la Constitution pour affirmer son propre pouvoir. C'est hyper grave. Et en plus, il vous fait ça en vous expliquant, c'est notre jurisprudence constante, pour se donner des airs d'état de droit, pour donner l'impression de faire, oui, en fait, c'est rationnel d'une certaine manière, c'est technique, c'est technocratique, vous comprenez, nous, on est des gens sérieux, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, c'est une violation. Et la seule chose qui est constante, et effectivement, pour le coup, la jurisprudence est constante, c'est que le Conseil constitutionnel est constant dans sa volonté de violation de la Constitution, de violation violation de la volonté souveraine du peuple exprimée par le Parlement en 2008 dans le cadre de sa modification constitutionnelle. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et alors, pourquoi c'est extrêmement grave particulièrement? Parce que ça crée une situation de blocage. J'avais expliqué il y a 2 ans justement que le problème, c'est qu'en fait, en faisant tout ça, en se donnant la capacité de virer n'importe quoi sous le motif de cavalier législatif, le Conseil constitutionnel supprime le droit d'amendement du Parlement. Qu'est-ce que c'est le droit d'amendement? C'est le fait de pouvoir amener sa propre initiative parlementaire dans un texte qui aura été provoqué par proposé par le gouvernement pour changer quelque chose dedans. Et dire, voilà, là-dessus, il vaudrait mieux partir dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, détruire l'initiative des lois du Parlement. Or, un Parlement qui a l'initiative des lois, je veux dire, c'est la première... C'est la base des bases du régime parlementaire. Avant 1830, si on n'est pas un régime parlementaire, c'est parce que le Parlement n'a pas l'initiative des lois. D'ailleurs, à l'échelle européenne, le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois non plus, ce qui vous explique que, pour ça que je dis qu'on est encore un ancien régime de ce point de vue-là, juridique. Et ça, j'ai l'impression que personne ne le dit. C'est véritablement terrible, parce qu'en plus, ça crée une espèce de situation de blocage, et une situation de blocage institutionnel qui peut mener à une crise. Parce que à partir du moment où le Conseil constitutionnel refuse de lâcher sa façon de faire, personne n'a d'outil constitutionnel pour empêcher le Conseil constitutionnel de faire ça. On le voit, puisque même une réforme constitutionnelle qui était faite pour limiter le pouvoir du Conseil constitutionnel, il l'a détournée, il l'a violée complètement. Donc, à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul moyen, c'est quoi? C'est soit un coup d'État, avec un président de la République ou un Premier ministre qui fait virer les membres du Conseil constitutionnel et qui les empêche de continuer comme ça. Ou bien quoi? Une insurrection populaire qui va dévaster le Conseil constitutionnel. Mais en dehors de ça, vous n'avez aucun moyen. Et pourquoi c'est très grave? Parce que à partir du moment où vous avez un blocage institutionnel qui ne peut être réglé que par une voie de fait, c'est-à-dire où il n'y a pas de recours légal, eh bien, c'est la porte ouverte à la guerre civile, parce que les guerres civiles commencent comme ça. Les guerres civiles commencent à partir du moment où vous allez avoir une faille dans la légitimité des institutions et un jeu institution contre institution. Juridiquement, moi, je suis désolé, le Conseil constitutionnel a tort dans toute cette affaire, mais politiquement, à partir du moment où vous avez une rupture qui se fait, si vous avez un président du Rassemblement national, par exemple, qui décidait de virer les membres du Conseil constitutionnel parce qu'ils empêchent le Parlement de faire son travail, ben à ce moment-là, vous aurez un pays qui se divisera entre les parlementaires, pas au nom de motifs techniques, mais autant de motifs politiques, qui se divisera entre les partisans du Parlement et du Président et les partisans du Conseil constitutionnel. Et si à ce moment-là, le Président de la République est un membre du Rassemblement national, eh bien, c'est la gauche qui verra dans le Conseil constitutionnel son champion pour critiquer la légitimité du Président de la République, et inversement. Donc, vous voyez à quel point c'est très dangereux. Et alors, je vais vous donner un exemple là-dessus que j'ai déjà cité, mais j'insiste là-dessus parce que le parallèle est véritablement évident avec ce qui s'est passé précisément en Ukraine. Lors de la révolution orange de 2004, il y avait un volet institutionnel parce que la présidence de la République, la présidence ukrainienne était véritablement très très puissante comme la présidence de la République en France. Donc le régime était encore structurellement autoritaire, même depuis la sortie du communisme. Et donc en 2004, il y a eu une modification constitutionnelle qui avait limité les pouvoirs présidentiels au profit du Parlement. Donc c'était une parlementarisation du régime déjà. Et avec l'élection de Yanukovych en 2010, la Cour constitutionnelle, aussitôt, a annulé la réforme de 2004, donc en restaurant les pleins pouvoirs, enfin ce qui était les pleins pouvoirs à l'avant c'est-à-dire la présidence dans sa plénitude, de ce qu'elle était avant. C'est comme si vous voulez, si dans les années 1790, tout d'un coup, il y avait une cour qui avait rétabli pleinement les pouvoirs de la monarchie absolue. Enfin, je caricature un peu, mais c'est la même idée, c'est la même dynamique, si vous voulez. Et donc la Cour constitutionnelle avait censuré une modification constitutionnelle, en disant que ça n'avait pas été adopté selon la bonne procédure, etc. Et beaucoup de juristes en Europe et les instances européennes, d'ailleurs, s'étaient émus de cette annulation, en disant mais une cour constitutionnelle ne peut pas annuler une réforme constitutionnelle des années après pour restaurer, en plus, politiquement, on voyait l'opportunité de restaurer les pouvoirs du président nouvellement élu. Donc, on trouvait ça curieux. Et résultat, il faut se rendre compte qu'en fait, le retour à cette réforme 2004, c'était une des revendications du Maïdan. Et c'est la première chose qui a été faite par la Rada, le Parlement ukrainien, avec la fuite de Yanukovych. Yanukovych a été destitué, et la Rada a rétabli la réforme constitutionnelle de 2004, qui avait tenté d'être déniée justement par l'appareil finalement autoritaire à l'intérieur de l'État ukrainien à l'époque. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça a donné la révolution ukrainienne derrière et des scènes de guerre civile. Il faut bien s'en souvenir. C'est pour ça que je vous dis à quel point c'est dangereux, parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent prendre un parti ou un autre. Donc tout ça pour vous dire à quel point le comportement du Conseil est problématique. C'est bien au-delà de ce qu'on vous dit en général. C'est bien pire que ce que vous avez en tête. Vous avez juste l'impression que c'est politiquement, c'est une instance qui est tenue, etc. Non, non. Si vous regardez au plan du droit, véritablement, c'est un détournement de la Constitution, c'est un refus d'une modification constitutionnelle qui a abaissé le pouvoir du Conseil constitutionnel, et donc c'est véritablement un coup d'État permanent du Conseil constitutionnel qui est au cœur du système autoritaire de la Ve République, et qui, pour cette raison-là, doit être abrogé, aboli d'une manière ou d'une autre, parce que c'est l'obstacle au retour réel de la démocratie parlementaire en France, qui est véritablement voulu par la population. On le voit avec les résultats des élections législatives depuis 2 ans. N'hésitez pas à diffuser ça, parce que ça me paraît important pour le coup. C'est pas juste une opinion, c'est à mon avis, c'est important pour le sort de la France. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à mettre la cloche si vous voulez avoir les autres formats flash. À bientôt pour de nouveaux formats, vous laissez pas faire, surtout et plus que jamais. Surtout par le Conseil constitutionnel.